Avec Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recherche Talent, la seule émission où ce sont les patrons qui passent un entretien d'embauche. Et aujourd'hui, le défi est lancé à Olivier de la Chevalerie. Vous êtes président Sigmatel. Bonjour, on va faire connaissance avec nos trois étudiants du jour.
Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 22 ans et je suis en quatrième année d'école d'ingénieur à IMT Nord Europe dans le domaine des énergies. Pour moi, le secteur de l'énergie est porteur de sens, mais aussi d'opportunités dans un contexte de transition pour un jeune ingénieur.
Bonjour, je suis Faustine Degier, étudiante en master génie industriel à l'INSA Lyon et future présidente de la junior entreprise de l'école. Pour moi, Sigmatel est une entreprise avec une empreinte locale forte qui a su se démarquer parmi les nombreuses entreprises spécialisées sur le marché. En tant que future ingénieure, j'ai à cœur de garder l'aspect plus humain et souple que peuvent proposer des TPE, tout en inspirant aux ambitions portées par les grands groupes. Sigmatel semble pouvoir concilier ces deux axes et j'ai hâte d'en savoir davantage.
Je m'appelle Paul, j'ai 21 ans et je suis étudiant à l'ESSEC School of Management, ainsi que chef de projet chez ESSEC Conseil Paris, la junior entreprise de l'école. Pour être honnête, je ne connaissais pas vraiment Sigmatel avant d'effectuer mes recherches et j'ai été surpris par la diversité de ses activités. Alors aujourd'hui, j'ai hâte que nous échangions avec monsieur de la Chevalerie pour pouvoir en apprendre plus, notamment sur des thématiques comme l'engagement ou encore l'attraction des talents.
C'est ça votre défi aujourd'hui, Olivier de la Chevalerie, c'est de nous expliquer exactement ce que fait Sigmatel et de convaincre nos trois étudiants, Nicolas, Faustine et Paul, que vous avez devant vous. Ils ne connaissaient pas la boîte, peut-être qu'ils ont déjà vu les camions de maintenance avec votre marque, parce que c'est ça votre travail, la maintenance de l'électricité, de tout ce qui est électrique. Ici, par exemple, dans ce plateau, vous pourriez faire plein de choses.
Exactement, on pourrait tout faire. Alors Sigmatel, c'est une entreprise que nous avons créée il y a une vingtaine d'années, qui travaille dans les métiers de l'énergie, électricité et électronique. Voilà, à peu près tout ce qu'il y a comme équipement aujourd'hui dans cette salle. Voilà, notre spécialité, c'est que nous sommes dans les travaux et la maintenance. Essentiellement la maintenance, le service client, c'est-à-dire que nous gérons à peu près 400 interventions par jour. Nous sommes 350 salariés, on fait 41 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Donc, belle grosse ETI.
Une ETI. Et nous sommes présents dans le quart grand ouest de la France. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce qui est important, je pense, et vis-à-vis de futurs recrutés, c'est en fait notre raison d'être. Notre raison d'être aujourd'hui, c'est au-delà de notre savoir-faire technique, qui est célèbre, nous sommes là pour prendre soin de ceux qui nous sont confiés. Voilà, le prendre soin dans l'entreprise, c'est très important. C'est-à-dire que nous voulons prendre soin de nos clients. Donc là, c'est la maintenance, c'est le service, c'est l'intervention, etc. On veut prendre soin de nos salariés. Donc là, c'est très important, on en reparlera, mais sur la formation, sur le parcours qu'on offre à nos salariés, qui peuvent à terme devenir actionnaires, puisque aujourd'hui, dans la société, 30% appartient aux salariés, et puis prendre soin de la planète, avec cette idée que voilà, les métiers de l'énergie ont une empreinte carbone forte.
Ils n'ont pas encore posé de questions.
Et qu'il faut faire aussi attention à sa planète, et nous avons décidé chez Sigmatel de prendre soin de nos salariés, de la planète et de nos clients.
Tout ce qui est autour du fil de cuivre, vous vous en occupez, je résume.
Tout ce qui est sur un fil de cuivre.
On est parti. Nicolas, on commence avec vous, votre question.
Alors déjà, bonjour à vous deux. Effectivement, j'ai une première question. Alors, aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir dans mes recherches, vous êtes une entreprise avec une stratégie de croissance qui est plutôt tournée vers l'extérieur. Et vous vous dites une entreprise qui a un modèle social un petit peu atypique. Ma question est la suivante, c'est comment est-ce que vous arrivez à prendre en considération, à faire participer vos collaborateurs, vos salariés et même vos partenaires dans la définition de votre stratégie, dans la définition de vos objectifs et puis après, à terme, les mettre en œuvre et décliner votre stratégie.
Alors, la question est très intéressante. D'abord, la première des choses, c'est que les salariés sont amenés à devenir actionnaires. Donc, si je n'explique pas ma stratégie à de futurs actionnaires, je suis pas dans...
Ils n'achètent pas.
Voilà, ils n'achètent pas. Je ne suis pas dans la bonne direction. En fait, quand quelqu'un arrive chez nous, il rentre dans un parcours. C'est-à-dire qu'il arrive avec sa formation, il arrive avec son histoire, et nous, on met dans un parcours de formation, un parcours de présentation de nos métiers, un parcours, un accompagnement dans l'entreprise. Parce que on veut à la fois être transparent sur qui nous sommes, mais aussi là où nous allons. Et on le fait pour tous les salariés. Même on a une réunion de présentation où même moi, je viens raconter l'histoire de l'entreprise, pourquoi nous en sommes là avec tous les salariés. En fait, on a cette histoire, on revient à l'histoire du prendre soin. C'est-à-dire que si on veut que les gens s'inscrivent dans un projet, et on sait que votre génération a plutôt envie de changer assez rapidement notre
pays. Vous voulez vraiment qu'ils adhèrent, quoi.
Exactement.
Qu'ils adhèrent au projet.
Si on veut qu'ils adhèrent, il faut leur montrer que nous sommes prêts à prendre soin d'eux. Si eux sont des belles personnes, on les invite à venir chez nous, qui est une belle entreprise.
Derrière, il y avait quand même la question de la croissance externe. Vous avez racheté des boîtes. Comment on fait une boîte avec plusieurs petites boîtes qui ont elles-mêmes des cultures au départ un peu différentes?
Ah oui, c'est une bonne question. Effectivement, à partir du moment où on va racheter une société, d'abord, il faut savoir pourquoi on rachète une société. On la rachète parce que c'est une implantation géographique qui nous intéresse. C'est un métier qu'on n'a pas, qui est proche d'une autre. Ou alors, il y a beaucoup de compétences techniques que nous n'avons pas. Voilà. Et donc, il y a d'abord une raison. Voilà. C'est une opportunité de racheter une société. Voilà. Et puis après, une fois qu'on intègre cette société, bien sûr, il faut qu'on lui apprenne nos valeurs. Il faut qu'on lui apprenne là où on va et intégrer les salariés au plus tôt pour qu'eux aussi deviennent actionnaires. C'est-à-dire que même
ça, c'est hyper important pour
même la croissance externe qu'on fait, en fait, il faut absolument que les salariés adhèrent au plus tôt au projet. Voilà. Et c'est pour ça que finalement, on a aussi des gens qui sont déçus par notre société, comme partout. Et en fait, on se rend compte qu'assez vite, dès le début, ils n'avaient pas adhéré au projet.
Alors Faustine, avant de devenir actionnaire de Signatel, votre question.
Alors là, on parlait justement de racheter des boîtes, etc. Donc vous, maintenant, vous existez depuis quelques années. Comment vous avez fait au départ pour prendre vos marques et réussir à vous démarquer parmi ce marché qui est quand même assez complet, l'électricité, voilà, face aux grands groupes, ou peut-être aux plus petites entreprises? Qu'est-ce qui a fait la différence pour vous?
En fait, on revient toujours au socle des valeurs. Nous étions là, à ce moment-là, pour prendre soin de nos clients. C'est-à-dire que moi, j'ai une culture de grand groupe, hein, puisque j'ai commencé dans un grand groupe. Et beaucoup de nos salariés, d'ailleurs, viennent de grands groupes et choisissent à la fin d'intégrer une ETI. Donc, ça nous fait beaucoup de plaisir. En fait, le socle, au départ, c'est prendre soin de nos clients. Voilà. C'est-à-dire que quand je vais voir un client, qu'il a une difficulté, je dois être à moins de 2 heures de chez lui pour pouvoir intervenir, ou plutôt, etc. Cette relation client, qui est très, très forte, nous a permis de faire la différence. Ça n'a pas été facile. Mais globalement, aujourd'hui, on a des clients, on a énormément de clients et certains qui nous connaissent depuis 20 ans et qui nous suivent depuis 20 ans.
Faustine, vous, l'aspect ETI, PME, ça vous intéresse? Vous n'avez pas envie d'aller dans un grand groupe?
Non, pas forcément. Je me dis qu'un grand groupe, c'est quand même vaste et immense et on est un petit peu un petit grain de sable parmi une immense plage et j'ai envie de pouvoir apporter plus que ça. Et je me dis que peut-être une PME, c'est quelque chose qui pourra permettre d'avoir plus d'impact au moins au niveau de l'entreprise.
Et peut-être d'aller plus vite en termes de carrière aussi. Hein,
parce peut-être que aussi.
Il y a cette idée quand même que dans une ETI, je peux aller plus vite à des postes de direction, être identifié comme talent.
Exactement.
Plus rapidement.
En fait, vous avez une très forte agilité des ETI. C'est-à-dire que nous, on a besoin de beaucoup de monde. Aujourd'hui, on a une trentaine de postes qui sont ouverts. Et en fait, quand on a des gens de valeur, assez vite, on leur trouve un poste. C'est un peu notre ambition, elle est de grandir, mais il nous faut des gens pour grandir. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai un exemple que je peux vous donner. On a un garçon, un jeune ingénieur qui est arrivé. 2-3 ans après, on lui a proposé l'agence de Rennes. Voilà, donc en fait, c'était parti.
Ça peut aller vite.
Alors, c'est pas facile, hein, mais globalement, je suis pas persuadé que dans un grand groupe, il y a des trajectoires comme ça qui marchent à l'opportunité.
Paul, votre question.
Moi, il y a un thème qui m'intéresse énormément et que je trouve central dans le monde du travail en France, c'est l'engagement. Et aujourd'hui, on le voit avec des phénomènes comme le quiet quitting, donc la démission silencieuse qui touche près de 37% des actifs français, selon une étude de l'IFOP en 2022. On a aussi tout ce qui va être la rotation de la main-d'œuvre qui a quintuplé ces 30 dernières années. Qu'est-ce que vous, Olivier de la Chevannerie, vous proposez? Quels sont les leviers sur lesquels vous appuyez chez Signatel pour permettre à vos collaborateurs de se sentir plus impliqués et peut-être de rester plus longtemps chez vous?
Paul, il n'a pas commencé, il pense déjà à partir quand même. Donc il va falloir.
Oui, c'est un vrai sujet pour nous qui est extrêmement, extrêmement difficile. Nous, on a d'abord décidé que on était tout à fait transparent sur notre projet. Comme ça, quand vous arrivez, vous vous dites pas, je sais pas trop où ils vont, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Non, on est très transparent sur notre projet, sur notre ambition, et on vous met dans un parcours, voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, vous pouvez l'interrompre, le parcours, mais enfin, vous étiez dans un parcours. Vous pouvez ne trouver le projet pas ambitieux, mais vous étiez dans un projet, vous voyez. Déjà, faire cette différence en disant, parcours personnel dans un projet d'entreprise, je pense que déjà, ça évitera de... Et puis, il y a une autre chose qui est assez simple, qu'on a mis en place il y a 3 ans, c'est de faire un sondage interne et de dire aux gens, finalement, qu'est-ce que vous attendez? Et puis, chaque année, de le refaire, de poser des questions. Et là, c'est peut-être la deuxième année où on voit de fortes progressions sur, finalement, vous nous avez écoutés, finalement, c'est un peu mieux, finalement, etc. Et nous, on commence à voir le turnover diminuer. Mais c'est un vrai travail. Et je pense
pour vous, c'est un indicateur. Vous regardez le turnover et vous voulez le faire diminuer parce que...
Ah oui, oui.
Oui, alors, reformer sans cesse, ça coûte cher aussi.
Alors moi, un turnover d'une personne qui décide d'être pompier, là je peux rien
là
faire.
Là,
je peux rien faire. Il a envie de changer de vie, quoi. Par contre, le turnover de quelqu'un qui va à la concurrence, non, comment se fait-il qu'il va dans une entreprise moins belle que la nôtre à la concurrence? Donc là, il faut qu'on travaille. C'est beaucoup de travail. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Hein. Beaucoup d'entreprises ont beaucoup travaillé sur leur raison d'être, sur pourquoi, comment garder les gens, comment aller plus loin, comment les faire participer au projet. Je pense que si vous êtes mis dans un projet, si vous êtes mis en perspective, je pense que vous avez moins envie de partir.
Nicolas.
Alors, effectivement, on a un petit peu survolé le sujet. Aujourd'hui, de ce que j'ai compris, vous êtes une entreprise qui est tournée vers ses salariés, pour ses salariés. Aujourd'hui, si on prend l'exemple d'un jeune ingénieur diplômé, par quel poste il va commencer, à quel salaire, et par rapport à son plan en fait, dans l'entreprise, quelle évolution va pouvoir suivre, à quelle vitesse, et forcément, quel poste il va pouvoir toucher.
Par exemple, à l'IMT Nord-Europe, je le prends
au pif. Par exemple. Non, mais ça, ce serait presque nous dire, alors, mais vous avez des cases et des grilles de progression. Non. Nous, on embauche des savoir-être. Voilà. Vous savez, il y a le savoir-faire et le savoir-être. Nous, le savoir-faire, on vous formera. Voilà. Mais par contre, le savoir-être, on ne saura pas vous former, on l'a en soi.
Vous n'avez pas une grille avec une évolution basique, avec des salaires, des postes fléchés?
Non, mais nous, on est dans une ETI, si vous voulez. Donc, moi, je rencontre quelqu'un, je trouve qu'il a c'est une belle personne avec un savoir-être, etc. Je ne sais pas combien il veut. Vous voyez, on n'a pas du tout des grilles. Non, nous, c'est la différence qu'on a par rapport à des grands groupes avec des grilles, c'est qu'on a la chance de pouvoir faire ce qu'on veut. Alors, bien sûr, on ne va pas vous payer 2 fois plus cher que. Mais globalement.
Ou 2 fois moins, vous êtes quand même dans la grille globale.
De toute façon, oui. On ne pourrait pas recruter. Mmh. On est tout à fait dans les grilles. Et à mon avis, comme en plus on propose au bout d'un an ou deux d'être actionnaire, je pense qu'on est même un petit peu au-dessus. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, pour moi, c'est on doit recruter des belles personnes et leur donner une vision. Et ça devrait marcher. Je pense qu'il ne faut pas trop se dire dans quelle grille, quel salaire, quelle perspective. Si vous êtes une belle personne, si vous travaillez bien, etc., chez nous, vous aurez une carrière.
Mais on ne sait pas si on est une belle personne. Vous savez, si vous êtes une belle personne, moi, je ne sais pas.
Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes nous demandent beaucoup aux entreprises, quelles sont vos valeurs, comment vous recrutez, comment vous traitez vos salariés, etc. Les jeunes nous demandent beaucoup, quelles sont vos valeurs? Mais nous, on leur dit la même chose. Et vous, les vôtres, hein, votre savoir-être, c'est quoi?
Faustine.
Oui, donc là, on a beaucoup parlé de tout ce qui... Enfin, comment vous êtes arrivée jusqu'ici, qu'est-ce que vous faites maintenant, tout ce que vous avez mis en place et vos valeurs. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous voyez pour l'avenir de la boîte. Je sais que nous, les jeunes, en tout cas personnellement, j'aimerais beaucoup partir à l'étranger, voyager, travailler un petit peu à l'international. Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible dans votre entreprise? Et comment, de quelle manière, qu'est-ce qui peut être mis en place?
Alors, l'international, on a un tout petit peu d'international, c'est en fait des clients qui nous emmènent faire des salles comme ça à l'international. Mais on n'a pas une volonté, nous, de développer à l'international. D'abord, nous sommes que dans un quart français, donc déjà, il reste 3/4. Il ne faut pas venir chez nous pour faire une carrière internationale, là, je suis désolé. Mais globalement, on a une discussion, nous, sur la demande de temps libre. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce que on a des exemples de gens qui nous disent, on vient en fait travailler chez vous, mais nous, notre passion, en fait, c'est les voyages, etc. Donc, qu'est-ce que vous nous permettez d'avoir en équilibre temps libre et temps professionnel? Eh bien, je pense que pour quelqu'un qui aime l'international, on pourrait très bien avoir une belle carrière en France et puis avoir le temps de voyager. Vous voyez,
c'est pas parce qu'on est pas... Vous allez libérer 6 mois pour qu'elle fasse le tour du monde?
Eh bien, on l'a déjà fait.
D'accord.
On l'a déjà fait, oui, c'est tout à fait possible. On a même une personne qui est partie faire croisière en bateau avec sa famille. Ça. Oui, on l'a permis. C'est une chose qui est possible. C'est la souplesse et l'agilité
des
entreprises.
Vous êtes assez ouvert
quand même,
oui.
Mais oui, en fait, vous avez une demande, j'ai une réponse. Alors peut-être qu'elle ne vous plaira pas, mais globalement, je n'ai pas besoin de...
Il ne faut pas hésiter à poser la demande, quoi.
Ah oui, il ne faut pas. Et puis surtout, nous, on a vu que cette génération-là, elle n'hésite pas à nous poser des questions. Il faut que nous, on sache se remettre un peu en question pour pouvoir leur répondre.
Paul.
Il y a Faustine et Nicolas qui sont en école d'ingénieur. Moi, je suis en école de commerce et c'est vrai que je ne connaissais pas Sigmatel avant mes recherches. Et en arrivant sur votre site, j'ai vu plein de termes. J'ai vu électricité, l'énergie, courant faible, courant fort. Moi, ça ne me parle pas énormément. Qu'est-ce que vous proposez pour attirer des personnes plutôt de mon profil, on va dire, qui sont plutôt commerciaux?
Oui, alors on est effectivement, on est plutôt des techniciens, ça c'est vrai. Donc on est plutôt sur le recrutement d'ingénieurs. Voilà, mais toute la partie back-office qui est extrêmement intéressante, que ce soit la communication, que ce soit la gestion, que ce soit la RH, tout ça, ce ne sont pas du tout des profils. Donc effectivement, au niveau des écoles de commerce, on sera plus sur la partie back-office, voilà, avec des postes qui sont, voilà,
Mais vous allez lui expliquer l'électricité, comment ça fonctionne, ou en fait il n'a pas besoin en tant que commercial de rentrer dans le détail. Il faut qu'il comprenne quand même le business.
Ah oui, alors en fait, bizarrement, dans nos métiers, on apprend à nos jeunes ingénieurs à être de bons commerciaux. On ne recrute pas des commerciaux pour leur apprendre la technique. Ça marche pas comme ça, en fait. C'est voilà. Non, aujourd'hui, les écoles de commerce, les profils d'écoles de commerce, c'est plutôt dans la gestion, la RH, et la finance. Voilà. On est plus comme ça. Par contre, nos jeunes ingénieurs, on leur demande.
Eux, ils vont devenir commerciaux.
Ah oui, on leur demande de vendre leurs affaires. Ah oui, bien sûr. C'est ça l'intérêt.
C'est marrant parce que c'est pas du tout. C'est ça. Vous aviez prévu ça, tous les trois, vous de devenir commerciaux et puis vous d'aller au RH? Pas forcément, en fait.
Pas forcément.
Non.
Un petit peu.
Moi, si vous êtes prêts.
Ah, aujourd'hui, oui, dans nos formations d'ingénieurs, il y a cette dimension commerciale qui est intégrée.
Et moi qui ai une formation d'ingénieur, j'ai commencé par les ventes des affaires.
On n'est jamais servi que par soi-même quand on comprend bien le business. On va débriefer avec nos trois étudiants, Nicolas, Faustine et Paul, vous ne bougez pas. Par contre, vous, Olivier, vous allez rejoindre la régie. On vous retrouve dans un instant. À tout de suite.
Recherche talent sur BFM Business.
Nicolas, Faustine et Paul, vous ne connaissiez pas Sigmatel juste avant cette émission, ça n'est pas étonnant. Désormais, on connaît beaucoup mieux. Vous faisiez face à Olivier de la Chevannerie. Est-ce qu'il vous a convaincu? D'abord, est-ce que vous avez envie d'être actionnaire de Sigmatel de votre côté, à vous, Nicolas?
J'ai bien envie d'être actionnaire et même de travailler aux côtés de Monsieur de la Chevannerie. J'ai trouvé quelqu'un de très ouvert et quelqu'un qui connaît sa boîte et qui a une vision qu'il va partager avec l'ensemble de ses collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose dont moi, j'ai besoin pour travailler avec quelqu'un.
Vous êtes sûr d'être une belle personne?
Je sais pas.
Non, mais en tout cas, ça vous a donné envie.
Ça m'a donné envie, ouais. Ça m'a bien plu de tenter l'expérience.
Faustine, de votre côté?
Je suis assez d'accord. C'est vrai que je ne connaissais pas non plus avant. Et le secteur de l'électricité, ce n'est pas quelque chose pour lequel j'avais un attrait particulier. Mais en tout cas, il en a très bien parlé. Il a très bien vendu les valeurs de l'entreprise. Et ce que, voilà, ce que lui, il en pensait et ce qu'il avait envie de développer. Et ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie de rejoindre. Voilà, actionnaire, je ne sais pas, mais en tout cas...
Actionnaire, ça va vous être proposé si vous travaillez là-bas. Donc, ça veut dire acheter des actions de l'entreprise. Ça veut dire débourser un peu d'argent, hein, quand même.
Je pense qu'il faut faire une phase de test avant de s'engager pleinement. Mais en tout cas, pourquoi pas essayer, oui.
Bon, et de votre côté, Paul?
Pour être honnête, je n'ai pas eu l'impression d'être le cœur de cible en tant que commercial. Surtout si on me propose d'être RH ou la gestion. Après, j'ai beaucoup aimé toutes les valeurs qu'il a mises en avant et sa stratégie pour... vraiment engager ses collaborateurs, et je pense que j'ai vu qu'il faisait partie du réseau Entreprendre.
Ouais.
Et si je crée mon projet plus tard, je pense que c'est des choses dont je pourrais m'inspirer.
En tant que profil d'entrepreneur, en fait, il vous a inspiré, en fait.
Il m'a inspiré, oui.
C'est ça qui a matché. L'électricité, vous, c'était pas forcément... Ça vous a... Sur le plan des valeurs de l'entreprise, on n'a pas parlé du cœur métier, mais bosser sur des systèmes électriques, ça vous intéresse ou pas, Nicolas?
Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà fait en stage. Après, c'est justement un petit peu dans ma réflexion actuelle que je mûris petit à petit. Moi, j'ai effectivement deux projets bien différents, soit travailler dans le conseil, dans le service aux entreprises, soit continuer dans la branche énergie, engineering. Et là, effectivement, ça pourrait m'intéresser.
Faustine?
Alors, moi, j'aimerais bien faire un petit peu de technique avant de continuer, parce que voilà, j'ai pas envie de faire de l'ingénierie pure et dure toute ma vie. Mais je pense que pour pouvoir vendre et savoir... voilà, monter les échelons, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on vend et savoir avoir la partie technique derrière. Donc j'aimerais bien pouvoir commencer de cette manière-là, faire un petit peu de technique, pourquoi pas tester l'électricité, et après derrière passer plutôt sur des postes de management, peut-être de direction, mais dans un premier temps, pourquoi pas.
Faustine, il faut que vous réfléchissiez bien, parce que vous savez ce qui va se passer. Vous êtes une fille, déjà, vous êtes ingénieure spé génie industriel, donc vous ne devez pas être très nombreuse, vous allez pouvoir choisir globalement ce que vous allez faire. Vous allez avoir un boulevard. Ils vont se jeter devant vous, tous ces industriels. Non, mais il faut que vous réfléchissiez bien, en fait, du coup, où vous voulez aller. Vous avez une préférence pour la PME ETI?
Oui, pour l'instant, oui.
Alors qu'un grand groupe va vous proposer des ponts d'or, c'est sûr. Non, mais ça pourrait jouer la taille de l'entreprise dans votre choix.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Il y a forcément tous les avantages, on ne va pas se mentir, qui vont être proposés en sortie d'école, mais également les valeurs. Donc là, pour le coup, j'ai été plutôt convaincue. Mais les valeurs qui sont propres à la boîte, les opportunités. Forcément, les opportunités de développement, peut-être de pouvoir changer de poste et pouvoir évoluer assez rapidement. Ça, c'est beaucoup de choses que je vais prendre en compte quand je vais faire mon choix en sortie de diplôme.
Eh ben merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui dans Recherche Talent. Vous êtes quand même le bienvenu chez Sigmatel, Paul, même si vous n'avez pas le profil industriel.
Bien sûr.
Bon, on reste amis. Merci à tous les trois, on va débriefer avec notre patron.
Merci beaucoup.
Recherche Talent sur BFM Business.
Olivier de la Chevannerie, président de Sigmatel, vous étiez face à Nicolas, à Faustine et à Paul. Carton plein, c'est votre profil qui leur a plu, c'est votre manière de parler, c'est la manière de... une certaine honnêteté en fait qui leur a plu. L'international, c'est pas chez vous, vous êtes clair, c'est ça qui marche.
Ah oui, mais j'ai pas les moyens de pas être clair. Si vous voulez, aujourd'hui, quand on a des jeunes en face de vous et qu'on doit leur donner envie, ça sert à rien de leur faire croire que aujourd'hui il y a pas de chômage chez les jeunes. Hein. Donc en fait, ils arrivent dans l'entreprise, surtout avec des
encore moins chez les ingénieurs.
Et... Ah oui. Donc ils vont arriver. Si j'aurais raconté qu'on allait ouvrir une filiale New York et qu'on le fait pas, mais dans un an et demi, la personne est partie, ça veut dire qu'on leur a formé, ça veut dire qu'on leur a intégré chez nous, elle partira. Donc il faut être très honnête. Comme ça, on a une présélection de l'envie déjà. C'est-à-dire que vous me donnez envie de rentrer chez vous et nous, on a envie de vous recruter. Mais si on commence sur de mauvaises bases, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, voilà, c'est une génération qui ne nous fait pas de cadeaux sur ça.
Donc votre boulot à vous, c'est la transparence en fait. C'est vraiment être très clair sur ce que vous faites.
Et je vais vous faire un aveu, c'est qu'on a énormément progressé. C'est-à-dire que cette génération-là...
Ça vous a poussé.
Ah oui, nous a appris à être transparents et voilà, et à travailler sur le fait que, non, il ne suffit pas de leur dire, nous, un ingénieur chez nous, il rentre à tel prix et pour tel poste. Non, ça ne suffit plus, ça.
Mais c'est-à-dire que vous, chef d'entreprise, il y a 20 ans, vous ne faisiez pas ça. Vous n'aviez pas ce discours-là, vous avez changé.
Non, en fait, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on disait, tu verras bien, c'est super chez nous. Voilà, mais cette génération, ça ne leur suffit pas. Il faut qu'on leur dise, ah oui, mais ça veut dire quoi, tu verras bien? Donc ça veut dire qu'il faut être clair sur le projet et dans la durée et quel projet on a pour eux. Non, on a beaucoup progressé. Je ne pense pas que vous m'auriez invité il y a 5-6 ans.
Vous n'étiez pas le même.
Si, ça aurait été très différent, mais je veux dire, je n'aurais pas tenu un discours aussi clair. Aujourd'hui, on est très clair sur, voilà, si on veut des bonnes personnes, des belles personnes, il faut que nous, on montre qu'on est une belle entreprise. Autrement, on n'y arrivera pas.
Vous mettez beaucoup l'accent sur la question de l'actionnariat salarié. C'est important chez vous. Vous nous avez dit 30% de vos salariés sont actionnaires de l'entreprise. Quand on dit non, quand on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas tous envie d'être actionnaire de son entreprise, qu'est-ce qui se passe?
Alors, on a tout à fait le droit. Aujourd'hui, il n'y a que 150 salariés sur 350 qui sont pas actionnaires. Il y a un choix. D'abord, il y a des personnes qui n'ont pas envie, à un moment T, quand sort la campagne d'actionnariat, d'être actionnaires, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ont d'autres sujets. Et puis, il y en a d'autres qui se disent « je ne suis pas vraiment dans le projet ». Pourquoi je serais actionnaire? Vous voyez, c'est-à-dire que nous, on est assez clair aussi là-dessus en disant, si nous, on vous permet d'être actionnaire parce que vous êtes dans le projet. Voilà. Mais quelqu'un qui n'est pas dans le projet, tu vois, c'est pas des actions, on fait un coup. Chez nous, c'est pas des actions qui valent trois fois le prix des actions.
Vous ne faites pas un coup financier, c'est pas pour ça.
Non.
C'est de l'investissement personnel, intellectuel, c'est l'engagement, quoi.
Et en fait, il y a une assemblée générale des actionnaires. Et là, les salariés posent des questions d'actionnaires. Vous savez, toute l'année, ils sont salariés. Et le jour de l'assemblée générale.
Vous les voyez se transformer? Vraiment? Et poser d'autres questions?
Alors, transformer, on ne peut pas dire qu'ils se transforment, mais globalement, ils posent des questions d'actionnaires lors de l'Assemblée générale. Mais on a surtout vu que le turnover était moins important chez les actionnaires que chez les non-actionnaires.
Donc, pour nous, c'est... Ils s'engagent dans la stratégie et ils s'impliquent.
Exactement. C'est gagnant-gagnant, c'est quelque chose... Voilà. Et je vais vous dire, mon rêve à moi, personnellement, c'est que globalement, je finisse par céder mon entreprise à mes salariés.
Et vous pensez que c'est possible?
Je pense que ça se fera, oui. Peut-être sur 10 ans, 15 ans, je ne sais pas.
C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous pensez quand même à la suite, à votre succession, à l'avenir de l'entreprise, et vous la voyez comme ça?
Ah oui. Si on me demandait quel est votre rêve, je dirais de céder mon entreprise à mes salariés, bien sûr.
Bon, ces trois jeunes gens, il y en a un qui s'est senti un peu exclu, c'est le commercial. C'est pas vrai, il pourra quand même avoir un poste chez vous, ou vraiment, c'est pas le profil?
Alors, en fait, c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas vraiment la fonction commerciale. C'est-à-dire qu'on a des fonctions où on a des gens qui viennent d'écoles de commerce, mais le cœur de notre métier est quand même de vendre des affaires, de réaliser des affaires, d'avoir des contrats de maintenance, etc. Et là, c'est plutôt des profils ingénieurs qui ont eu une formation parfois commerciale. C'est vrai que des commerciaux purs, en fait, on n'a pas tellement dans notre métier. Donc, si c'est quelqu'un qui recherche vraiment vendre des affaires, aujourd'hui, on n'a pas la taille, c'est pas notre modèle de vente. Donc, effectivement, il peut se sentir un peu exclu. Par contre, notre ancien DAF, il faisait une école de commerce. Enfin, on a plein de gens d'école de commerce qui sont chez nous quand même, heureusement. Mais pas dans le core business, si je puis dire.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier de la Chevalerie, président de Sigmatel. C'est la fin de Recherche Talent pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez participer à l'émission, vous envoyez un mail avec vous, @bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn. Je vous dis à la semaine prochaine.
Recherche Talent sur BFM Business.